toutes et tous. Et je voudrais, dans ce deuxième temps de méditation ensemble, approfondir l'enjeu de la pensée. Et arriver là où Lawrence Freeman est arrivé tout à l'heure, c'est-à-dire à la relation profonde entre la foi et la pensée. J'ai particulièrement aimé ce par quoi il a terminé sa conférence, et je voudrais vous dire pourquoi et comment je me sens en parfait accord avec lui sur cette définition de la foi et cette relation profonde entre la foi et la pensée. Nous l'avons compris ce matin, la question de la pensée, de la méditation, est absolument fondamentale. Notre civilisation est fondée sur des maîtres qui pratiquent la méditation et la pensée. Ce n'est pas un hasard, les maîtres nous permettent d'évoluer pour aller dans notre devenir et dans l'accomplissement de notre potentiel. Et la question de la pensée est absolument vitale pour passer de ce dont j'ai parlé ce matin, à savoir l'intellect primaire, l'intellect prédateur, l'intellect reptilien, à l'homme évolué. Vous savez que nous avons plusieurs cerveaux, dont un cerveau reptilien, et je crois qu'effectivement, il y a là une mutation nécessaire. Alors, je voudrais revenir cet après-midi sur les enjeux de notre mutation. Et pour cela, je parlerai de quatre choses. Premièrement, je reviendrai sur l'homme. Deuxièmement, je reviendrai sur le Christ. Troisièmement, je parlerai de la révolution de la pensée et des trois grandes révolutions que nous devons faire si nous voulons rentrer dans cette expérience. Et puis, je terminerai mon propos en revenant sur cette question de la foi. Je crois que pour comprendre les enjeux de la pensée, il faut apercevoir la place de l'homme dans l'univers et la place du Christ dans l'homme. Nous participons à un immense devenir créateur, dont l'homme est le centre. Il aurait pu y être, ne rien y avoir, il y a quelque chose et non rien. Il aurait pu n'y avoir que de la matière, il y a la vie. Et il aurait pu n'y avoir que de la vie, il y a l'homme, cet être qui est doté de conscience. Cet être, comme le dit Épictète, par qui l'univers devient conscient. Je crois que si la Terre n'est peut-être pas au niveau spatial le centre de l'univers, en revanche, l'homme est au centre de la création. Et ce n'est pas trop lui donner, ni trop céder à un anthropocentrisme primaire que d'expliquer sa place éminente dans l'univers. Pourquoi ? Parce qu'il est celui en qui aboutit tout le mouvement de l'évolution. Toute la création est un formidable jaillissement de vie. Et cette vie aboutit à l'homme qui est la conscience de la vie. En ce sens, l'homme est un oméga. C'est un achèvement, c'est une fin, mais c'est en même temps un commencement. Pourquoi ? Parce que le but de l'homme n'est pas l'homme. Mais le but de l'homme, c'est l'homme accompli. C'est l'homme déifié, comme le dit la tradition orthodoxe. C'est l'homme qui est passé de la conscience vers la supraconscience et qui est devenu collaborateur, co-créateur avec Dieu de la création. Donc le projet de la création est prodigieux et l'homme est la clé de ce devenir prodigieux. Une clé bien résumée par le Christ lui-même lorsqu'il parle de l'homme comme étant un alpha et un oméga. À la fois un achèvement et un commencement. Une coïncidence même entre le commencement et l'achèvement. À l'intérieur de ce devenir, il nous est dit que la chose la plus importante du monde, c'est de naître à nouveau. C'est ce que dit le Christ dans l'entretien à Nicodème. Tout homme qui n'est pas né une seconde fois ne pourra pas accéder au royaume des cieux. Car l'homme doit naître de l'esprit. Dieu est esprit. Et l'homme doit devenir esprit. L'esprit étant ce dont nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il va. L'esprit, nous en faisons une expérience. À chaque fois que nous faisons une expérience d'attention et de présence à notre existence, tout d'un coup, si nous sommes vraiment des êtres spirituels, en devenant présents, tout devient présent et tout se révèle comme présent, ce qui fait que tout est vivant. J'aime cette définition de Dieu qui a été donnée par les penseurs médiévaux, un océan de vie. Dieu, un océan de vie. Toute expérience de présence profonde à soi, au monde, aux autres, à l'existence, crée un moment, un état de coïncidence fulgurant entre nous et l'existence, où tout se révèle comme étant vie et océan de vie.
Là, nous sommes nés à nouveau. Et là, nous sommes dans notre être véritable. Si nous ne voyons pas le monde entier comme vivant, en ayant un sentiment océanique, c'est que nous n'avons pas encore atteint la plénitude de nous-mêmes. Un grand saint de la tradition orthodoxe, le Staret Siloan, disait que la vision des saints, c'était la vision de l'univers entier embrasé par l'amour de Dieu. Si l'homme est la clé de la création pour la faire passer à son niveau non seulement conscient, mais supraconscient, Le Christ est la clé de l'homme. Pourquoi est-ce que le Christ est la clé de l'homme? Il est la clé de l'homme parce que la manière dont il a vécu, la manière dont il a parlé, la manière dont il a existé et existé, c'est exactement ce que se passe lorsqu'on est pleinement présent. Qu'est-ce qui nous frappe dans la parole du Christ? C'est que cette parole n'est pas simplement une parole, c'est de la vie. À chaque fois qu'il a parlé, il a transformé son auditoire. Il a changé les vies. Il a révélé les êtres à eux-mêmes. Et ce qui est étonnant, c'est que même étant invisible, il est encore présent. Qu'est-ce que révèle le Christ au monde? Le Christ révèle la source ultime de l'existence. Il la manifeste, il la fait vivre. La source ultime de l'existence s'exprime à travers l'expression « le parlant ». En parlant du parlant, je fais référence ici à Marcel Jousse, ce jésuite totalement génial qui a étudié les structures de la culture araméenne et qui a en particulier, à travers cette culture, redécouvert la profondeur charnelle de Dieu, de la divine Trinité, du sens de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que Dieu pour Marcel Jousse? C'est quelque chose que l'on mange. Dieu se mange et Dieu se boit. Et comment pouvons-nous comprendre encore Dieu quand nous ne le désignons pas comme océan de vie? Eh bien, l'une des meilleures manières de comprendre Dieu, c'est de penser Dieu comme le parlant, de voir le Fils comme la parole et de voir l'Esprit comme le souffle. Et alors réfléchissez bien avec moi sur ce côté parlant. Qu'est-ce que c'est que le parlant? Le parlant, c'est quelque chose de prodigieux, car c'est la coïncidence entre le silence et la parole. Quand quelqu'un est amoureux, il n'a pas besoin de dire qu'il aime pour montrer qu'il aime, ça se voit. Et nous apercevons que même s'il ne dit rien, tout parle l'amour en lui ou en elle. Il a beau se taire, il ne se tait pas. Et il a beau parler, il ne parle pas. Nous sommes dans l'essence du langage. Et nous comprenons ici cet extraordinaire paradoxe sur lequel Heidegger est revenu. Le silence est le comble du langage. Et la parole est le comble du silence. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes dans la dimension du parlant? Nous apercevons que tout parle et pourtant aucun mot n'a été prononcé. Nous sommes dans une parole encore plus parlante que la parole verbale. Le parlant, c'est ce qui se passe. Lorsque la vie est tellement vécue que tout d'un coup, cette vie n'est plus de la vie, c'est de la lumière. C'est de la pensée. C'est du sens. C'est inouï. Et ça nous dit la parole de toutes les paroles, ça nous dit la beauté ineffable de l'existence. Le parlant, c'est le comble de la vie. C'est l'apothéose de la vie. Et pouvons dire que tout vient du parlant. C'est-à-dire, tout vient de la vie qui est au comble d'elle-même et qui existe tellement qu'elle n'a pas besoin de parler pour parler. Elle n'a peut-être même pas besoin de se manifester pour se manifester. Elle peut être invisible. Elle est tellement vivante que c'est encore mieux que si elle était visible. Alors là, nous sommes dans un très, très, très haut niveau de réalité. Et là, nous touchons l'homme. Quand on dit le Christ est le Fils de l'homme, ça veut dire le Fils, il est l'accomplissement de l'homme. Il nous montre ce que c'est qu'un homme. Quand un homme, avec un H majuscule bien sûr, est un homme, il est parlant. Et quand il est parlant, tout ce qui touche, tout ce qui dit, est transfiguré. Ça devient de la lumière. Avec la boue du monde, il fait de l'or. Comme dit Baudelaire au début de l'un de ses poèmes dans Les fleurs du mal, « Donne-moi ta boue et j'en ferai de l'or. » Nous sommes de la boue, nous sommes de la Adama, nous sommes de l'Adam, nous sommes du terreux. Et avec ce terreux transfiguré, nous devenons du parlant. Et donc le Christ nous initie ici à une véritable expérience de la pensée, de la méditation. Nous pouvons faire l'expérience du Christ, parce que le Christ, ça n'est pas simplement une personne historique, c'est un principe. Comme le dit la liturgie orthodoxe, c'est l'invisible qui devient visible pour que le visible rentre dans l'invisible. À chaque fois que je vis avec amour, que je deviens un existant en étant présent à moi, je fais l'expérience du Christ. L'invisible devient visible, le visible devient invisible. Cette rencontre en moi entre le visible et l'invisible nous donne la joie qui est l'extraordinaire plaisir d'exister. Et à ce moment-là, nous sommes dans des sensations vraies et nous sommes dans des mots justes. Nous sommes dans l'existence authentique et révélée. Parce que vous avez médité, parce que vous avez la foi, parce que nous méditons et parce que nous avons la foi, nous avons tous ressenti dans le fond de notre cœur la saveur et la douceur de Dieu. Nous avons tous ressenti cette sensation délicieuse d'existence qui fait tout exister et tout respirer. Et là, nous avons compris le parlant de la vie. Et là, nous avons fait l'expérience du Christ, sachant qu'en disant ça, j'ai conscience d'ignorer des tas de choses sur cette expérience et qu'il y aurait infiniment à dire et que vous en savez certainement beaucoup plus que moi. Mais je partage ce qui me semble être Christ à l'intérieur de ma sensation d'exister. J'ai appris le Christ par le corps, sur les chemins du mont Athos, en marchant sous le soleil. Et j'ai compris ici que Dieu était un parfum et non pas une abstraction, et que c'était extraordinairement savoureux, extraordinairement vivant, et que nous venions de cet extraordinairement vivant. Et quand nous faisons des expériences d'attention, des expériences de vie, nous rentrons dans le parlant. Et là, nous sommes dans un extraordinaire espace où rien n'est dit et tout est dit, et rien n'est montré et tout est dévoilé. Donc, pour notre évolution, il convient non pas simplement d'être homme et de comprendre la haute signification de l'anthropos au milieu de la création, au centre de la création, mais il faut comprendre le Christ au centre de nous-mêmes. Et le Christ au centre de nous-mêmes, c'est l'expérience de la mutation, de la parole, de la présence. C'est l'expérience du pain et du vin intérieur, au moment où le pain et le vin résument toutes les mutations qui vont du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. D'où la nécessité de manger le Christ, au sens profond du terme, ce que nous faisons pour notre plus grand bien tous les dimanches. Alors à partir de là, les choses se précisent et nous pouvons comprendre, pour avancer dans l'expérience de la pensée, vers la pensée comme révolution. Il est très important de comprendre que l'essence de la vie est révolutionnaire. Révolution veut dire retour à soi. La tradition orthodoxe parle de métanoïa. Et là, nous avons une indication extraordinaire sur la pensée et la méditation. Méta, au-delà, noïa, intelligence. Nous appelons ça le repentir. Mais le repentir ne veut pas dire la culpabilité. La pénitence, le repentir veut dire le changement de vie et me fait toujours penser à cette parole de Jean-Baptiste dans le désert. Repentez-vous, changez de vie, revenez à vous-même et passez sur une autre fréquence. C'est ça, le repentir. Je peux me culpabiliser, je peux me rouler dans la cendre et déchirer mes habits. Si je n'ai pas changé de vie, ce sont des larmes de crocodile. Mais à l'inverse, si j'ai fait une profonde mutation intérieure, un changement de vie, là, j'ai vraiment effectué le repentir. Qui est-ce qui nous explique formidablement bien le changement de vie, la révolution? C'est Platon. Platon nous donne, dans le mythe de la caverne, une explication géniale du destin de l'homme et de ce qu'on appelle une expérience de connaissance avec un C majuscule. Il y a deux possibilités de vivre. On peut vivre sans éduquer l'homme. Et à ce moment-là, on commet un crime. Et on peut vivre en éduquant l'homme, c'est-à-dire en le conduisant hors de lui-même, en le mettant sur le chemin pour en faire autre chose qu'un petit monstre qui emmerde tout le monde. C'est important de comprendre que quand l'homme n'est pas génial, il est insupportable, et surtout avec les femmes. Et donc, Platon nous montre ce que c'est qu'une expérience de connaissance. Et cette expérience de connaissance, ça s'appelle la traversée des apparences. Ce fantastique titre d'un roman de Virginia Woolf, La traversée des apparences. Qu'est-ce que c'est que les apparences? Les apparences, c'est ce qui se passe quand on vit une réalité qui ne fait pas sens. La réalité n'est rien que la réalité et elle devient irréelle. La réalité, c'est la réalité qui a du sens et c'est pas la réalité, et c'est la réalité qui est vécue de l'intérieur. Et quand la réalité est vécue de l'intérieur, elle nous amène des apparences à l'apparaître et à l'apparition. Platon distingue 4 degrés de connaissance. Le premier, ce sont les impressions. Le deuxième, ce sont les opinions. Le troisième, ce sont les concepts. Et le quatrième, il est de l'ordre de la métanoïa, de ce qui est au-delà de l'intelligence, c'est-à-dire de la réponse fondamentale, de la parole. Premièrement, nous recevons des impressions de l'existence, et c'est ce que disait Laurence tout à l'heure, lorsqu'il parlait de la cohue. Je parlais ce matin du brouhaha, du tumulte, le flot des impressions qui nous submerge, le flot des émotions qui nous submerge, le flot des sensations chaotiques non vécues de l'intérieur, qui fait que c'est le bazar à l'intérieur de la tête. Ça rentre en bouillie et ça sort en bouillie. Et on est dans la purée. Deuxième expérience de connaissance, c'est pas mal. L'individu, au lieu d'être submergé par les impressions, a une opinion. Et il se bâtit un système à travers une réflexion sur ses propres impressions. Il y a des choses qu'il aime, il y en a d'autres qu'il n'aime pas. Il y a des choses qui ont du sens, il y en a d'autres qui n'ont pas. Et il bâtit un certain système de représentation que Laurence a appelé très justement ce matin la croyance, belief. Qu'est-ce que c'est que les croyances? Ce sont des systèmes de représentation que les individus ou les sociétés se bâtissent pour essayer de se donner une représentation acceptable du monde et de l'existence. Chaque individu a son système de représentation, ses croyances. Chaque société a son système de représentation et ses croyances. Ces croyances représentent, en général, une vision à peu près vraisemblable de la réalité, mais c'est quand même une vision qui n'est pas assurée, c'est une vision qui demeure hypothétique. Et c'est pour ça qu'on est dans la croyance. On n'est pas sûr, donc on croit. Et moins on est sûr, plus on croit. Et plus on croit, moins on est sûr. Et on fabrique quelque chose qui tient comme ça peut. Ça s'appelle du bricolage. Et ce bricolage, ça s'appelle les mythes et les représentations de toute société. Troisième point, nous avons la science. la science se caractérise par le fait d'introduire de la méthode à l'intérieur de sa démarche en soumettant tout ce que l'on dit à des protocoles de vérification qui sont soit logiques, soit expérimentaux. On ne dit rien qui n'ait pas été étayé soit par un argument logique, soit vérifié par une expérience. Et nous sommes dans la démarche hypothético-déductive qui débouche sur une vision du monde que l'on contrôle. Et c'est l'intérêt de la science de ne pas être dans les croyances, mais de tâcher d'être dans la vérité au sens scientifique du terme, c'est-à-dire l'exactitude. On essaye de dire des choses aussi exactes que possible. Et puis, il y a un quatrième degré de connaissance. Et ce quatrième degré de connaissance, c'est celui qui nous importe au plus haut point. Pourquoi ? Mais parce que dans la vie, il est humain d'avoir des impressions. Il est assez sympathique d'avoir des croyances. Il est assez rassurant de tenir des discours exacts. Mais à un moment, il faut aller plus loin. Et il faut poser la question du sens de notre vie. Il faut avoir des réponses à ceux qui nous demandent « Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi est-ce que nous vivons ? Pourquoi est-ce que nous souffrons ? Pourquoi est-ce que nous mourons ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde ? Et quelle est la signification de ma présence dans le monde ?» Et là, Platon a fait une découverte absolument géniale. Il a découvert la vérité absolue. Vous ne serez pas venu pour rien. Vous allez repartir avec une parole que j'ose dire devant vous, absolue. Je vais vous dire la plus belle des choses qu'on peut dire à quelqu'un et la pire des choses qu'on peut dire à quelqu'un. La plus belle des choses qu'on peut dire à quelqu'un, c'est ce que des parents disent à des enfants quand les enfants demandent « Papa, maman, pourquoi j'existe et pourquoi est-ce que vous m'avez fait ?» J'ose dire devant vous qu'il n'y a qu'une réponse acceptable. C'est cette réponse magnifique qui consiste à dire « Nous t'avons fait parce que nous t'aimons et parce qu'il est beau que tu existes. Il est beau d'exister, parole absolue. » La preuve, le contre-exemple, la pire des choses qu'on peut dire à quelqu'un, c'est « Il est regrettable que tu existes. » La Shoah s'est bâtie avec des gens qui pensaient qu'il était regrettable que les Juifs existent. Et le fond de la tradition chrétienne explique l'inverse. Dieu a créé le monde parce que c'est beau, et que l'existence humaine est belle, et que l'univers est beau. Là, quand on est arrivé à ce niveau de méditation, on a pensé. Et là, on a traversé les apparences. Qu'est-ce que veut dire Platon quand il dit « il faut traverser les apparences » Les imbéciles et les haineux à l'égard de Platon nous disent « Platon, c'est un idéaliste. Platon, il veut nous emmener dans les idées. » Il ne faut pas traverser les apparences, il faut rester au niveau des impressions sensibles. Eh bien non, Platon a raison. Quand est-ce que j'ai une vraie impression ? J'ai une vraie sensation si à un moment, j'accède à la beauté de ce que je sens. À ce moment-là, j'ai une sensation de sensation, je sens vraiment. Nos sensations ont besoin de beauté. Et là, nous pouvons comprendre pourquoi, à un moment, les penseurs nous ont dit, comme Platon, les idées, c'est essentiel. Les idées, c'est pas les idées au pluriel, il n'y en a qu'une idée. Et tout le reste sont les manifestations de l'idée fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'idée ? L'idée, c'est la même chose que la conscience absolue. Quand est-ce que j'ai une idée de la vie ? J'ai une idée de la vie quand je vois la beauté de la vie, quand je vois la beauté des êtres humains, quand je vois la beauté des visages. Là, j'ai une idée. Ma mère disait toujours, est-ce que les gens se rendent compte ? Est-ce qu'ils ont une idée de leur vie ? Ou est-ce que tout rentre en bouillie et tout sort en bouillie ? Et tous les philosophes ont dit, la chose du monde la plus importante, c'est l'idée. Parce que quand j'ai une vraie idée de l'idée, mais tout d'un coup, je suis dans la vie. Tout existe. Je me rends compte de ce qui existe. Je m'aperçois que c'est phénoménal. En fait, vous voyez, l'existence a quelque chose de parfait, d'étincelant, de fulgurant, de beau, à pleurer tellement c'est beau. Et là, on a une idée de la vie. Là, on a une idée de l'être humain. Le contraire de ça, c'est l'assassin. Simone Veil disait, c'est une grâce que de voir ses crimes. Et le problème de l'assassin, c'est qu'il n'a aucune conscience d'être un assassin. Il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. La parole absolue, c'est « tu ne tueras pas ». Mais qu'est-ce que c'est que la parole « tu ne tueras pas » Ça vient de la beauté. C'est l'expérience de la contemplation de Moïse qui voit la beauté divine et qui dit « quand on a vu la beauté divine, mais c'est impossible de tuer ». Mais ça va prendre du temps pour que l'homme ne tue pas. Donc on va lui dire « tu ne tueras pas » parce que c'est tout un programme pour en arriver là. Alors vous voyez, là, on a fait une expérience de pensée. Là, on a fait une expérience de méditation. Et qu'est-ce que ça veut dire méditer ? Méditer, ça veut dire ce que Descartes disait. Ça veut dire, attention, je vais vous dire quelque chose. Mais vérifiez-le. Ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Sucez-le, manduquez-le comme on suce un bonbon, comme on manduque quelque chose, mâchez-le, ruminez-le. L'idée que l'essence du monde est la beauté et que derrière cela il y a une source divine ineffable, c'est tellement profond qu'il faut prendre le temps de la méditation et on n'a pas assez de toute une vie pour penser à ça. Pour penser à la lumière. Ne dites jamais que c'est évident. Ayez toujours conscience que vous n'avez pas tout compris, que vous croyez avoir compris, mais que vous ne savez pas encore. Là, vous aurez pensé, vous aurez médité. Et si vous êtes dans cet état de méditation, alors qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez rentrer dans le charnel, vous allez découvrir votre corps. C'est comme si quand vous caressez vos mains, vos doigts, tout d'un coup, tout se met à sentir, à vibrer. Et là, on est dans la beauté. Et là, on est dans l'idée. Donc ça, c'est extraordinaire, l'expérience de Platon. Et vous voyez à quel point c'est difficile, parce que les gens l'insultent en disant « Platon nous a entraînés dans l'ignorance. Il a idéalisé la réalité. » Il n'a pas idéalisé la réalité, il a réalisé l'idée. Il a eu une idée. Et heureusement qu'il en a une, parce que c'est grâce à lui qu'on fabrique des écoles, qu'on fait de la politique, qu'on construit la civilisation pour que les gens arrivent à avoir une idée une fois dans leur vie. On pourrait leur dire, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as pensé et est-ce que tu as eu une idée ? Comme disait De Gaulle, des gens qui cherchent on en trouve, et des gens qui trouvent, on en cherche. Deuxième expérience qui me paraît fondamentale, et je vous jure que je vous lâche après. Deuxième expérience fondamentale, quand on a eu l'expérience de l'idée, on a l'expérience de l'autre métanie, de l'autre traversée des apparences. Cette expérience, c'est celle que Pascal a faite. C'est celle que l'on trouve chez Kierkegaard. C'est l'expérience chrétienne fondamentale. C'est là où est allé le Christ. C'est le cœur du cœur de l'incarnation. Qu'est-ce que dit Pascal? Quand l'être humain arrive dans cette existence, il y a de quoi, comme lui, être effrayé, effaré. Pourquoi? Mais parce qu'on a l'impression d'être projeté dans un univers totalement chaotique et dépourvu de sens. C'est vrai que le monde est plein de cataclysmes. C'est vrai qu'il est plein de malheurs. C'est vrai que les êtres humains font des horreurs. Et c'est vrai qu'à un moment, on a un certain sentiment d'absurdité. Et Hegel dira comme Camus la même chose, si en regardant le monde et ce qui se passe, on n'a pas eu envie de se suicider, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose à l'existence. C'est vrai qu'il y a des choses magnifiques dans le monde, mais il y a des choses terribles dans le monde, et qu'à un moment, nous pouvons tous nous demander, que fait Dieu? Pourquoi se tait-il? Et puis, tout d'un coup, il y a l'expérience, qu'on peut appeler l'expérience miraculeuse, dont j'ai parlé ce matin, mais dont on ne parlera jamais assez, c'est l'expérience du retournement de la métanoïa, du renversement de l'angoisse, de l'effroi. Pascal, en méditant sur la condition humaine, a fait une découverte géniale que Heidegger reprendra et qui est la suivante. C'est vrai que nous sommes bombardés dans l'existence, mais nous ne sommes pas bombardés dans l'existence parce que, comme le dit Michel Onfray, nous sommes des blocs de misère jetés à toute allure dans le néant. Réjouissant. Tu n'es pas abandonné dans ce monde, tu es envoyé dans ce monde. Tu n'es pas bombardé dans ce monde, tu es missionné dans ce monde. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Mais tu es quelque part en première ligne pour le transformer, le faire muter. Et qu'est-ce que fait Pascal? Pascal découvre la grâce derrière l'absurde. Et il découvre le projet derrière ce qui semble être le rejet. Il fait exactement, sur le mode métaphysique, l'expérience de l'humour. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'humour? C'est ce qui se passe quand on transforme un obstacle en passage, c'est-à-dire un Satan en Christ, ou bien encore, quand on transforme l'épreuve de l'existence en occasion. Qui est quelqu'un qui est humoristique? C'est quelqu'un qui, quand on l'insulte, s'en réjouit en remerciant celui qui l'a insulté parce que l'autre lui apprend une dimension inconnue de lui-même. Qu'est-ce que fait Charlot quand il a affaire à un flic qui veut lui casser la gueule? Il va vers le flic, il le prend par la taille et il danse une valse avec lui. Et il l'a transformé en partenaire de jeu et l'autre est anéanti. Il est passé du rejet au projet, il est dans la métanoïa. La métanoïa, c'est la même chose que l'humour. C'est l'au-delà de l'intelligence, c'est la traversée des apparences. Attention, derrière tout ce qui semble être une épreuve, il y a une occasion. Il y a une alchimie possible. La souffrance n'a pas qu'un seul sens, la mort n'a pas qu'un seul sens, l'épreuve n'a pas qu'un seul sens, rien n'a un seul sens. Et là, mes amis, nous avons besoin de la pensée qui parle et pas simplement du silence. Nous avons besoin de la méditation qui éclaire notre intellect. Si nous ne faisons pas un travail sur les images pour remplacer une image négative par une image positive, nous sommes bloqués par les images et nous sommes dans un état de souffrance et d'angoisse énorme. Donc, nous devons réfléchir en termes de responsabilité citoyenne et humaine et il ne faut pas rejeter complètement l'intellect. Et il ne faut pas penser que l'intellect, c'est simplement la projection du mental. Il faut savoir que l'intellect bien utilisé nous permet de nous libérer et de nous sanctifier. Il faut transfigurer l'intelligence, il ne faut pas détruire l'intelligence. Et transfigurer l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire exactement le travail de l'image. Et le travail de l'image, c'est le travail que fait la critique et c'est le travail que fait la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est qu'une psychanalyse? Une psychanalyse, c'est un dialogue dans lequel les gens racontent leur histoire et tout d'un coup, ils commencent à dire un certain nombre de choses et puis on s'aperçoit qu'ils sont bloqués par des images, des représentations fausses derrière lesquelles il y a un océan d'affects négatifs, d'angoisse et de larmes. Et tout d'un coup, on va changer d'image, on va montrer autrement les choses et la personne va être libérée. Et donc là, nous avons besoin d'écoute, d'intelligence et nous avons besoin d'un intellect capable de discriminer. Autour de nous, les guerres, les atrocités viennent toujours de mauvaises images, de fausses images. Et il faut remplacer les images négatives par les images positives, c'est-à-dire il faut remplacer les images par des icônes, par des choses qui laissent passer la lumière. Bachelard disait que dans la science, en permanence, on s'aperçoit que les savants sont tentés par des images et ils se font des fausses images de la réalité et il nous faut une pensée critique qui permet un moment de critiquer nos images pour nous permettre de refaire circuler l'énergie méditative et créatrice de notre être. Donc, là, je dirais qu'au niveau de la culture, nous avons besoin de la critique, de l'esprit discriminant, et celui-ci, quand il est bien pratiqué, est extraordinairement libérateur, et je pense que c'est un yoga. Il y a un yoga de la discrimination, il y a un yoga mental qui passe par le fait d'être extrêmement intelligent, rigoureux à l'égard de ce que l'on dit. Comment commence la philosophie? La philosophie commence avec Socrate. Et qu'est-ce que dit Socrate? Il dit à ses interlocuteurs, « Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire ?» Et tout d'un coup, les gens sont stupéfaits, rentrent dans leurs petits souliers. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit des énormités et ils ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font. Et il me semble ici, vous voyez, que ce travail, c'est un travail vis-à-vis de l'angoisse, vis-à-vis de la mort et de la souffrance. Le problème qui est le nôtre, ce n'est pas la souffrance et la mort, c'est l'image qu'on se fait de la souffrance et de la mort qui fait que la souffrance devient horriblement douloureuse et que la mort devient horriblement angoissante. Mais dès lors qu'on fait le travail de la pensée, du double sens de ce que l'on vit, et dès lors on rentre dans la communauté humaine qui est une communauté de la parole et une communauté de l'intelligence créatrice, et tout d'un coup les gens, au lieu de pleurer, se mettent à rire de ce qui les embarrassait. Donc je pense qu'ici, vous voyez, il y a ce travail de la méditation que nous faisons. Et nous pouvons faire du yoga en permanence si nous savons discriminer au fur et à mesure de la vie quotidienne. Ça a été le secret de Coluche. Qu'est-ce qui a fait la fortune de Coluche? Il était capable de lire un journal. Ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il voyait toutes les bêtises qui se disaient dans le journal. En particulier, il m'avait fait rire, le jour de la mort du pape Jean-Paul Ier, il y avait une pub dans le journal, Grande Braderie au marché Saint-Pierre. Voilà, les gens ne s'étaient pas rendus compte que sur la même page du journal, il y avait une pub pour une braderie au marché Saint-Pierre, alors que le pape venait de mourir. Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils impriment? Il faudrait que quelque part, ça s'imprime en eux. Alors ça nous amène au dernier point. Et là, je vais retrouver cette charmante jeune femme blonde qui m'a dit « J'ai bien aimé tout ce que vous dites, sauf sur l'idée. » Alors si elle est là, qu'elle m'écoute attentivement. Je voudrais la réconcilier avec l'idée de Dieu. Je voudrais la réconcilier avec l'idée, l'idéal. Qui est-ce qui m'a fait comprendre l'idée? Ce qui m'a fait comprendre l'idée, c'est Hegel. Hegel a dit une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre en faisant penser qu'il était fou. Il a dit cette phrase, mal traduite en français, tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Et alors, des gens peu cultivés, mais qui veulent faire les malins, ont désigné Hegel comme coupable et en disant « voilà l'essence du totalitarisme ». Parce que, comprenez, si je prends les choses au pied de la lettre, Hegel est effrayant et il faut le brûler. Tout ce qui est réel et rationnel, ça veut dire que le mal n'existe pas, tout est logique. Et tout ce qui est rationnel et réel, ça veut dire que jamais la pensée intellectuelle n'est dans l'irréalité. Donc tout est logique, et puis Hegel lui-même pense que la logique est toujours réelle, bref, c'est un fou de logique. Mais ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Si on lit le texte où il dit ça, il dit « Les gens pensent que, premièrement, les choses sont des choses et, deuxièmement, que les mots sont des mots. Ils font une différence entre les mots et les choses. Et ils pensent qu'au fond, les idées, c'est pas important, c'est que des opinions et qu'au fond, la réalité, c'est que de la matière. » C'est-à-dire que l'état normal de quelqu'un qui n'est pas éveillé parce qu'il n'a pas suivi nos séminaires et qui n'est pas là avec nous à Valpré, le bonheur est dans Valpré, eh bien, il vit dans l'insignifiance. Et ça me fait penser à ce livre de Castoriadis qui disait « La montée de l'insignifiance, la montée du vide ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « le réel est rationnel et le rationnel est réel » ? Ça veut dire deux expériences extrêmement profondes. Première expérience, le réel et rationnel, c'est la signification du Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est que la signification du Mont Blanc ? Le Mont Blanc, c'est un tas de cailloux avec de la neige, mais c'est de la beauté. Et c'est en ce sens où le Mont Blanc n'est pas un tas de cailloux et de la neige, c'est un mythe, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le réel, tout en étant matériel, peut être spirituel. À un moment, le réel, c'est pas du réel. Et il faut bien qu'on comprenne ça, le réel, c'est pas du réel. À un moment, Hegel disait, attention, le petit bonhomme avec son chapeau et la main qui se trouve à l'intérieur de sa capote militaire et qui est sur un cheval blanc et qui vient de rentrer à Iéna, eh bien, c'est l'histoire. Et ce n'est pas simplement un individu qui fait du cheval une après-midi de septembre. Donc, ça, on est dans la vision. Nous sommes dans quelque chose qui est grandiose derrière les apparences. Et ça, c'est une expérience de la réalité. Et qu'est-ce que c'est que d'autre part une expérience de la pensée et de l'idée ? Eh bien, il y a des pensées qui ne sont pas des pensées, c'est de la réalité. Notre civilisation, elle repose sur deux idées, la justice et la liberté. Personne n'a jamais vu la justice, personne n'a jamais vu la liberté. Et pourtant, si on arrêtait de parler de la liberté et de la justice, c'est tout le système social, c'est tous les droits de l'homme, c'est tout ce qu'on essaye de bâtir pour donner une dignité aux individus qui s'écroule. Donc, les idées, c'est drôlement réel. Et d'où viennent les idées ? Les idées, elles nous viennent de la perfection. Personne n'a jamais vu la perfection, mais tout le monde a envie de l'atteindre. Il y a en nous quelque chose qui nous appelle à nous transcender. Et s'il n'y avait pas en nous cet appel vers de la perfection, on ne parlerait ni de justice, ni de liberté, ni de beauté. Et là, on est dans quoi ? On est dans l'expérience géniale de la vraie pensée, de la méditation. Penser, c'est un moment, bien sûr, passé par l'intellect, mais c'est aller au-delà de l'intellect, vers le grandiose, vers la beauté, vers le génie, vers la parole, vers quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un. Si je dis, et quand est-ce que ma vie change ? Ma vie change quand à un moment, je m'aperçois que la réalité que je vis, c'est pas de la réalité, c'est du sens. Et que tout d'un coup, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas des mots, c'est de la réalité. Donc là, je me dis, attention, je suis passé de l'autre côté du miroir, j'ai traversé les apparences. Alors, je crois que pour nous, c'est une grande leçon qui nous permet, et je vais en terminer par là, de comprendre ce que veut dire la foi. Je pense toujours à Hegel qui parlait de deux choses à propos de la pensée. Deux choses dont parlera Heidegger également, dont parlent les vrais penseurs et dont a parlé notre ami Laurence tout à l'heure. C'est ce qu'il appelle la chose même et c'est ce qu'il appelle la tenue de soi dans la pensée. Qu'est-ce que c'est que penser ? Qu'est-ce que c'est que méditer ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi ? Avoir la foi, méditer, penser, c'est devenir la vie même. Apprendre à devenir la vie même. C'est comme ça que je vois le Christ. Soyez vivant. Qu'il n'y ait pas un atome de votre vie qui n'existe pas. Devenez la réalité même. C'est ce que veut dire aimer. Aimer veut dire brûler. C'est pour ça qu'il y a le baptême du feu et pas simplement de l'eau. Il faut être immergé, mais il faut ressortir sous la forme d'un feu. Et le feu, c'est ce qui se passe quand je suis dans la présence et quand je me tiens dans la présence. Et à un moment, quand je parle, si je parle, tout d'un coup, ça touche les cœurs, ça atteint la vie. Et ça peut changer des existences, ça révèle le réel. Et qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est l'attitude de comment qu'est-ce que c'est qu'être dans la chose même ? Ça s'appelle la tenue de soi dans la chose même. Et la tenue de soi, ça veut dire tenez bon. Tenez bon pourquoi ? Parce que vous allez parler de la pensée et vous allez faire peur et vous allez inquiéter les gens et vous allez douter. Et vous allez peut-être devenir incrédule, mais ne soyez pas incrédule. Je suis venu ici pour vous montrer que tout ce que vous avez cru sur Dieu, c'est vrai. Tenez bon, soyez fort, restez fort. C'est ça la foi. La foi, c'est la fin de l'incrédulité. Et c'est cette extraordinaire expérience de la tenue de soi à l'intérieur de l'existence, qui fait que tout d'un coup, quelqu'un se tient. Il a de la tenue et il en donne aux autres. Et les autres ont de nouveau une colonne vertébrale, ils peuvent se verticaliser. Et tout d'un coup, ils respirent et ils sont ressuscités. Et ce sont des arbres de vie au lieu d'être des arbres stériles. Vous savez, quand on lit les évangiles, il y a cette parole extraordinaire qui exprime la foi. Que ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Quand la foule est dans son corps et qu'elle a des yeux et des oreilles, elle aime le Christ. Et quand elle n'est pas dans son être intérieur, sa présence, sa verticalité, elle veut le tuer. Je le souhaite à tous d'avoir des yeux et des oreilles ouverts. Voilà, chers amis, ce parcours. La parole est à vous si vous avez envie de poser des questions. Non, non, merci, merci de la prendre.
Cette vue, cette visionnaire que vous avez de l'homme, de l'amour, de la vie, de Dieu, c'est magnifique. Moi, ma petite question, elle est courte. L'amour, est-ce que vous le classez dans les idées? Dans l'idée. Est-ce que c'est une idée? Ou alors, si c'est un support pour l'idée, de quelle manière? Je ne sais pas.
Pendant les vacances, j'ai expliqué à une médecin qui m'a regardé stupéfaite que quand on mangeait un couscous, on mangeait en même temps l'idée du couscous. Et on mange autant le couscous que l'idée du couscous. Essayez de manger un couscous sans avoir aucune idée et sans vous en faire aucune idée. Eh bien, vous allez crever la dalle. C'est-à-dire que je crois que l'amour est toujours une réalité émotionnelle, charnelle, et c'est toujours une réalité idéale. Et pour vivre, nous avons autant besoin de l'un que de l'autre. Nous avons besoin de sentir ce que nous pensons pour le penser, et nous avons besoin de penser ce que nous sentons pour le sentir. C'est-à-dire qu'il faut croiser les fils entre deux plans d'existence. Et donc, c'est en ce sens où remplacer le mot idée par la lumière. Et tout d'un coup, vous allez ne plus être dans la confusion, car c'est ça la signification de la lumière. Essayez de vivre dans le noir. Puis vous me direz, vous verrez la tête que ça fera. Ben, ne pas avoir d'idée, c'est la même chose que d'être dans le noir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est quelque chose de très émotionnel qui devient très spirituel. L'amour, ça commence toujours, pour nous, dans les affects, dans l'attrait. Mais c'est un désir. Mais c'est un désir qui, tout d'un coup, se construit et va de plus en plus loin. Et je crois que c'est là où tout d'un coup, l'amour nous amène la lumière de l'amour. Et la découverte de l'amour, de la lumière de l'amour, rend l'amour encore plus aimable. C'est que plus j'aime quelqu'un, plus je me fais une haute idée de cette personne. Et plus j'ai une haute idée de cette personne, plus je l'aime. Donc, je crois que vous voyez, c'est très important que nous puissions nous réconcilier avec les idées en faisant la différence entre les idées et l'idée comme entre les pensées et la pensée. Tout à l'heure, Laurence disait, oui, nous avons des idées, des choses, c'est-à-dire nous avons des images, nous avons des projections mentales, oui. Mais derrière les images, il faut trouver la lumière. Et la lumière, c'est ce qui fait qu'à un moment, on va avoir l'idée, et l'idée, ça donne quoi? Ça donne le mot juste, ça donne la parole créatrice, ça donne la pensée qui illumine, ça donne la belle image qui supprime la vilaine image. Vous voyez? Voilà. Donc je pense que, si vous voulez, aussi curieux que ça puisse paraître, l'amour est autant une réalité extrêmement sensible qu'une réalité très idéale et lumineuse. Je dois vous dire que j'ai mis longtemps à accepter la réalité des idées, parce que j'étais, vous savez, comme beaucoup d'entre nous, on est tenté de dire la réalité, c'est le sensible, on ne va pas l'intellectualiser, on ne va pas être dans des projections mentales, et moi je me méfie des grandes idées. Oui, je me méfie des grandes projections et des délires intellectuels, mais une véritable idée, au noble sens du terme, c'est autre chose. Alors, oui, est-ce que vous pouvez être plus clair? Parce que j'ai du mal à me faire une idée de ce que... Quel serait l'autre postulat?
C'est de dire que, justement, l'idée en elle-même, c'est simplement quelque chose qui est une idéation, quelque chose qui n'est plus en contact avec la réalité. Carrément une imagination, une création de la pensée. Et donc là, on sort carrément de la réalité. Et c'est certain, je pense que c'est une conception de la pensée qu'ont certains philosophes.
Oui, oui. Alors, comment vous dire? Je pense qu'il y a plusieurs sortes d'idées. Et je comprends très bien qu'il y a des idées, comme vous le dites, qui sont des idéations. Mais je pense qu'il est dangereux de croire qu'on peut éliminer toute idée. Hein? Remplaçons le mot idée par lumière. Je pense qu'il faut faire attention. Si on touche à l'idée, c'est pas simplement... Moi, je suis d'accord de me débarrasser de l'imagination dans ce qu'elle peut avoir de négatif. Mais se débarrasser de la lumière, ça non. Donc il faut faire attention à ne pas nous plonger dans l'obscurité sous prétexte de nous éviter le chaos mental. Vous voyez? Alors ça, je vais vous dire, au lieu de polémiquer les uns contre les autres, je pense que ça appelle, c'est une piste de réflexion. C'est une piste de travail, vous voyez? Et en particulier, il serait très intéressant de repenser avec nos amis bouddhistes cette question de l'idée, cette question de la pensée, puisque à un moment, on dit qu'il faut sortir de l'idée, il faut arrêter la pensée. Là, ce serait intéressant, c'est de se demander, est-ce que vous croyez qu'on peut sortir de toute pensée? Et est-ce que... il n'y a pas une pensée nécessaire et une pensée constructive.
Justement, est-ce qu'il existe ce dialogue entre les philosophes
bouddhistes? Bien, écoutez, je ne sais pas où il a lieu. C'est ça qui est important, vous voyez. Je crois que les bouddhistes disent, à un moment de conscience, il n'y a plus de dualité et je ne me fais plus une idée de Dieu. C'est juste au niveau psychologique. Mais Platon, quand il fait l'expérience de la lumière, il ne se faisait pas une idée. Il a vécu quelque chose qui était lumineux et qui était une pensée qui ne relevait pas de la projection mentale. Donc, là, nous sommes à un très haut niveau. Nous sommes au niveau de l'esprit. Alors, moi, j'ai le sentiment que ce serait intéressant de savoir. Mais, si vous voulez, l'intérêt des bouddhistes, c'est de nous dire la chose suivante. Nous avons tellement l'habitude de nous projeter du fait de notre mental et de nos conditionnements que il faut faire attention quand on parle de la pensée, parce qu'on croit qu'on s'est purifié et on ne s'est pas encore purifié complètement. Mais je pense, vous voyez, que c'est une piste de travail. Je pense par exemple que nous, là, nous faisons durant ces deux jours, nous parlons, nous pensons ensemble et nous essayons d'écouter des paroles qui nous remplissent d'énergie, d'amour, d'élan spirituel. Et je crois que nous essayons de faire un travail de pensée qui utilise positivement l'intellect et qui utilise positivement la pensée et qui n'est pas contradictoire avec ce que dit le bouddhisme dans la non-dualité. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une porte de sortie de cela, c'est la manière dont a pensé l'apophatisme. L'apophatisme que l'on trouve aussi bien, je pense que le bouddhisme est un apophatisme, mais il y a un apophatisme chrétien que, qu'est-ce que c'est que l'apophatisme ? C'est ce qui consiste à dire, nous ne savons pas ce qu'est Dieu, et si nous prétendons dire ce qu'est Dieu, ce sera toujours une illusion. Mais nous savons ce qu'il n'est pas. Tout à l'heure, j'ai défini Dieu comme un océan de vie. Vous voyez que c'est une formule apophatique. C'est une manière de parler de Dieu sans l'enfermer dans une représentation ou une image. Et en maintenant toujours, et si vous voulez, en même temps, la plénitude divine. Alors, je crois que ça, c'est des enjeux de fond de civilisation. C'est-à-dire la question de la pensée, la question de la méditation, si nous la manquons, nous pouvons déséquilibrer totalement notre civilisation. Heureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que, pour parler de la pensée, nous parlons toujours de la pensée d'une manière critique et d'une manière apophatique. Là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que la pensée est dangereuse lorsque nous l'idolâtrons et lorsque nous sommes sans critique et sans apophatisme. Mais nous pouvons très bien penser dans la non-dualité à partir du moment où nous avons de la rigueur critique et nous prétendons pas dire ce qu'est Dieu, mais nous arrivons, alors nous trouvons des formules qui sont des paradoxes et qui permettent de parler de Dieu, vous voyez, et donc, ou alors nous avons des formules, des représentations comme des icônes. Ou alors, nous avons l'expérience poétique, métaphorique, qui ne prétend jamais enfermer la réalité divine dans une idée, mais au contraire nous permet de l'approcher de la, vous voyez, par le biais de la métaphore.
Dans le judaïsme, oui. C'est bien ça.
Oui.
Il y avait, c'est celui qui est, mais c'est le détail.
Il y avait, c'est celui qui sera. Et qu'est-ce que dit le judaïsme ? Le judaïsme dit, on peut parler de Dieu, on peut penser à propos de Dieu à une seule condition, c'est qu'on lise sans arrêt le texte, qu'on s'interroge sans arrêt sur soi-même et qu'on n'arrête jamais l'interprétation. Donc là, nous avons une pensée qui est dans la non-dualité, Dieu n'est pas un objet, ce n'est pas une chose en face de moi que j'ai délimitée. C'est un courant continuel de vie, un courant de sens, et un courant de sens dans lequel je me mets et qui m'amène à être moi-même en expansion et à me penser dans un monde en expansion.
Mais dans les systèmes de pensée, comment situez-vous les utopies qui nous ont quand même...
Alors, les utopies... Moi, je crois que les utopies, tout est à double sens. Et ça, je pense que c'est important de ne jamais enfermer le réel. Les utopies sont doubles. D'une part, les utopies, ce sont des systèmes idéologiques qui apparaissent à l'intérieur de la culture et qui ont permis à celle-ci de progresser. Qu'est-ce que c'était que les utopies ? Les utopies, c'était souvent des systèmes philosophiques qui proposaient des choses normales aujourd'hui, mais qui paraissaient anormales à l'époque. Les utopies, c'était de dire, on rêve d'être dans un monde dans lequel les hommes ne vont pas se massacrer et ils pourront tous étudier et apprendre. Donc ça, c'était les utopies. Après, c'est autre chose. Vous avez des systèmes idéologiques totalitaires, contraignants, qui, considérant qu'il représentait le bien sur la terre et le bien de l'humanité, ne supportait pas d'être critiqué. Alors là, nous sommes dans des systèmes terrifiants qui pensaient tout, avoir tout pensé. Donc, si vous voyez, vous avez eu des politiques qui n'étaient pas dupes de leurs utopies, et puis vous avez eu des utopies qui étaient monstrueuses. Voilà. Donc, vous avez raison de poser la question, c'est là où je serai juif. Le judaïsme pense l'idolâtrie. Et le gros problème du judaïsme, c'est l'idolâtrie. Jamais un juif ne se demande si Dieu existe ou pas. Mais il demande de quel Dieu tu parles. Est-ce que tu parles de Dieu ou est-ce que tu parles d'une idole? Je peux parler de Dieu si je suis poète, si je chante, si à un moment je suis apophatique, si je suis critique. Mais si je deviens un théologien dogmatique qui fait de Dieu un principe figé, là, je suis dans une idole. Vous voyez ? Donc je pense que voilà, c'est ça qui est important pour nous dans la pensée, c'est d'être dans le flux de sens. Et nous pouvons réconcilier l'Orient et l'Occident dans cette vision maritime et fluviale. Et c'est les eaux du féminin, c'est le féminin créateur, la fluidité. Oui ? Entre la pensée et l'idée. Alors, comment dire ? L'idée, c'est un aspect de la pensée. Et on pourrait dire, si je prends l'idée, on va traduire les choses. Si je prends l'idée, ça veut dire la lumière. Et donc, en ce sens, quand Hegel dit « l'idée mène le monde », il veut dire « la lumière mène le monde ». Et il dit quelque chose qui est totalement biblique et qui est génial. Puis quand on parle de la lumière, je pense toujours à Ibn Arabi et à Henri Corbin avec ce livre merveilleux « L'imagination créatrice » dans le soufisme d'Ibn Arabi, où il est question à un moment de l'homme de lumière et de l'essence lumineuse du monde. L'expérience de la pensée, c'est quoi ? C'est l'expérience de la mutation de mon être quand j'ai fait une véritable expérience de la réalité. Donc, nous dirons qu'il y a eu de la pensée quand un moment, non seulement j'ai pensé, mais tout d'un coup, je me suis rendu compte de l'essence spirituelle du monde. Donc, nous dirons que la pensée, c'est la lumière vécue par l'homme. Et nous dirons que... Donc vous avez la lumière et vous avez l'actualisation de la lumière. Et qu'est-ce que nous essayons de faire ? Nous essayons d'aller dans la pensée qui est la même chose que la méditation. C'est-à-dire, tout d'un coup, nous allons dire quelque chose qui va peut-être être lumineux. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici durant 2 jours ? De la lumière. Pour fortifier votre lumière. Alors il y a différentes manières d'aller dans la lumière. On peut aller dans la lumière, peut-être par un exposé, par cet échange, peut-être que pendant 1 ou 2 fractions de seconde, j'aurais dit quelque chose, et là vous vous êtes dit, c'est lumineux, c'est bien, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mais il y a aussi le moment où nous allons nous tenir en silence dans la chapelle, et nous allons laisser vivre et respirer notre lumière dans l'immobilité et nous serons encore dans la pensée. C'est-à-dire que vous voyez, les moments de parole et les moments de silence se complètent et ils travaillent dans la lumière. On le voit très bien, quelqu'un qui a médité, tout d'un coup son visage est reposé, toutes les tensions s'en vont et le corps de lumière que l'on trouve à l'intérieur de la personne s'épanouit librement. Est-ce que c'est plus clair, plus lumineux ?
Ça demande à être vécu et traduit par mes propres mots.
Voilà, vous devez maintenant le méditer. Voilà.
Ce mot lunaire, ça fait partie des mots qui m'éclairent.
Voilà. Voilà.
L'idée, instinctivement, je tourne à l'idéologie.
C'est ça.
Ce que vous avez dit sur les idoles,
oui. C'est ça.
M'a éclairé sur ce point.
D'accord.
Donc la lumière est venue.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Et la pensée, c'est quand même, je le vois plutôt comme un fonctionnement.
Oui.
Une idée, un matériau.
Oui.
La façon de fonctionner avec divers matériaux éclairés par la lumière. Une sorte de trinité.
Alors. N'oubliez pas que je prends toujours les choses avec la catégorie du double sens et que l'idée est, d'un certain point de vue, une idole intellectuelle. Et là, je comprends nos amis bouddhistes, mais tous les mystiques, toutes les traditions spirituelles critiquent les systèmes idéologiques dans lesquels les hommes s'enferment. Mais d'autre part, l'idée, c'est aussi cette part lumineuse, consciente, qui fait que tout d'un coup, on a une idée. Ça y est, on a une idée. C'est génial. Hein? Donc, c'est bon. Et le travail de la pensée, la même chose. Je peux entendre la pensée un fonctionnement, mais je peux entendre au moment quelque chose qui est une mutation de l'être, où je dis attention. Là, j'étais vraiment devant quelqu'un et il y avait de la pensée. Et quand on dit il y a de la pensée, on n'est plus dans un fonctionnement. On admire. On dit oh là là. Grâce à son esprit, il révèle la réalité. Et là, c'est d'un poids énorme.
Et c'est là que la poésie est géniale.
Voilà.
Qu'elle permet d'exprimer par des mots bien précis.
Mais vous savez, Hubert Reeves, quand il voit le ciel, ce n'est plus un savant, c'est un poète. Il chante et il danse. Eh bien, je crois que quand on est dans la véritable pensée, et la véritable idée, la véritable lumière, on chante, on danse. Ben voilà. Merveilleux. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci.